VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 18h à Brazzaville. Bonsoir, bienvenue. Le taux de participation à l'élection présidentielle de dimanche en Côte d'Ivoire se situe autour de 60% selon le premier vice-président de la commission électorale indépendante à Abidjan. Environ 6,3 millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter dimanche pour la présidentielle dont le chef d'État sortant Alassane Ouattara est le grand favori. Les Ivoiriens sont donc dans l'attente des résultats officiels de l'élection présidentielle. Quand seront-ils disponibles? La réponse tout de suite avec Tatiana Amosso, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Abidjan.
Les résultats, écoute, on nous dit qu'on devra avoir des provisoires d'ici ce soir et des définitifs demain.
L'ASE, il vient donc de donner à peu près le taux de participation. Qu'est-ce que les gens en pensent à Abidjan?
Écoutez, 60% de participation, c'est ce qui a été annoncé du moins dans une déclaration à la mi-journée par la CEI. Ils nous ont bien prévenu que c'était des résultats encore provisoires puisque tous les résultats n'ont pas fini d'être compilés. Les Ivoiriens sont plutôt dubitatifs dans certaines zones, dans certaines communes que dans lesquelles nous nous sommes rendus. Des Ivoiriens disaient qu'ils avaient observé moins de participation que ça, entre 40 et 50%. Mais encore une fois, c'est un chiffre qu'il faut garder comme provisoire parce que la CEI est encore en plein travail. On nous a donné rendez-vous tout à l'heure à la presse internationale et à la presse nationale. On nous a donné rendez-vous d'ici une heure pour pouvoir avoir des premières tendances claires puisque la compilation se poursuit et que le vice-président de la CEI, Gervais Koulibaly, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, nous disait encore être sur le terrain à la recherche des dernières compilations. Donc des résultats, des premières tendances ce soir et normalement des résultats définitifs entre demain et mercredi.
Tatiana Mosso, envoyée spéciale VOA Afrique à Abidjan. Le Congo-Brazzaville attend les résultats du référendum organisé hier sur un projet de constitution qui devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Déjà, chaque camp crie victoire. On écoute Mathias Zon, un leader de l'opposition congolaise.
Et la réponse a été cinglante hier. Je ne sais même pas si le taux de participation va atteindre 2%. Partout, les Congolais ont boudé les urnes. Personne n'a quitté sa maison pour aller voter. Ça veut dire que les Congolais ont rejeté le changement de constitution dans notre pays. Les Congolais ont rejeté la demande du troisième mandat par le président Sassou. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous les Congolais.
Si le parti au pouvoir ou bien le président Denis Sassou Nguesso n'en ont cure alors?
100% des urnes ont été bourrées d'avance. Alors il va proclamer que le oui l'emporte. Mais c'est ce qu'il fait habituellement. D'ici le soir ou demain, soir, il va proclamer que le oui l'a emporté. Et ce sera du bidon. Les Congolais savent qu'ils n'ont pas voté. Normalement, si le président Sassou veut avoir la conscience tranquille, si c'est un homme d'honneur, un homme digne, il doit invalider ce référendum qui n'en a pas été un.
Mathias Zon, un leader de l'opposition congolaise à Brazzaville. Réaction maintenant de Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, le parti congolais du travail.
Heureux de constater que le référendum s'est bien déroulé dans la paix, dans la sécurité. Les citoyens en toute liberté se sont exprimés faisant le choix qui était le leur. La démocratie congolaise va triompher. Le peuple a gagné.
Mais apparemment, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas fait le déplacement vers les bureaux de vote.
C'est exagéré. Sur la base de quoi on peut faire une telle affirmation? Un bureau de vote, ce n'est pas l'ensemble de la République. Le Congo ne se ramène pas à un arrondissement de Brazzaville. Sur toute l'étendue du territoire national, la mobilisation a été forte. Sauf que ça ne peut pas être le même niveau de mobilisation partout.
Est-ce que vous attendez à un oui massif?
Mais c'est incontestable. Le oui est largement majoritaire et c'est parce que les amis avaient conscience de ça qu'ils s'opposaient à tout prix. Ils n'ont pas voulu entendre parler du référendum parce qu'ils savaient que si on va vers le peuple, le oui sera naturellement gagnant.
Mathias Zon de l'opposition congolaise et Pierre Ngolo du Parti congolais du travail ont été joints à Brazzaville par Idriss Fall. Et on va maintenant en Tanzanie. Le principal parti d'opposition a dénoncé de possibles fraudes électorales et la tension commençait à monter sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar au lendemain des élections générales en Tanzanie. dont les premiers résultats partiels étaient attendus aujourd'hui. Jacques Aristide.
Quelques 23 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes hier pour élire leur nouveau président. Celui-ci doit succéder à l'actuel chef de l'État, Jakaya Kikwete, qui, conformément à la Constitution, ne se représentait pas après avoir achevé son second mandat. Les Tanzaniens devaient également choisir leurs députés et conseillers locaux. D'après des observateurs, ces élections, qui se sont déroulées dans le calme, pourraient mettre fin au règne du parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1961, ce qui faisait craindre d'éventuelles violences post-électorales, d'après l'AFP. Le décompte des voix se poursuivait ce lundi et des résultats préliminaires devaient être communiqués aujourd'hui. Quant à l'annonce des résultats définitifs, elle est prévue mercredi ou jeudi. L'opposition crie déjà à des irrégularités, le parti Chadema évoquant des allégations de fraude électorale ayant trait à des bourrages d'urnes, des accusations qui ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante. La course à la présidence se joue entre John Magufuli, du parti au pouvoir Chamacha Mapinduzi, et l'ex-premier ministre Edouard Lowassa, à la tête de la coalition d'opposition Ukawa.
Au Burundi, l'Union européenne a invité aujourd'hui les autorités à des consultations sur les atteintes à la démocratie dans ce pays secoué par une grave crise depuis le printemps, une procédure susceptible de conduire à la suspension de l'aide européenne. Les 28 pays de l'Union européenne ont donné leur feu vert à l'envoi d'un courrier au président burundais, Pierre Nkurunziza, au cours d'une réunion des ministres du développement à Luxembourg.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Un violent tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 s'est produit ce lundi en Afghanistan, provoquant de violentes secousses jusqu'en Inde et au Pakistan. On recense plus d'une cinquantaine de morts jusqu'à présent. Salwa Jafari.
Dans les rues de Peshawar, la vie s'est arrêtée d'un coup et n'est pas prête de reprendre son cours normal. On évacue les blessés, on évalue les dégâts. La secousse particulièrement longue a détruit des bâtiments en Afghanistan, en Inde et au Pakistan, poussant des milliers de personnes à se précipiter dans les rues. Ce grand-père raconte. Selon l'Institut américain de géologie, l'hypocentre du séisme se situe à Jholm, dans les montagnes reculées du Baldakhstan, à l'extrême nord-est de l'Afghanistan, à une profondeur de 213 km. Dans la province voisine de Tahar, la panique qui a saisi des écoliers au moment du séisme a provoqué la mort de 12 d'entre elles. Au moins 6 personnes ont été tuées, 69 blessées dans la province du Nangarhar, selon un hôpital local, portant à 18 le nombre de morts recensés jusque-là en Afghanistan. Les premiers bilans étaient encore plus importants au Pakistan voisin, avec 52 morts. Dans cet hôpital de Peshawar, les blessés continuent d'affluer. Il y a 10 ans, au Pakistan, le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7,6, dont l'épicentre se situait à quelques centaines de kilomètres de celui d'aujourd'hui, avait fait plus de 75 000 morts et poussé 3,5 millions de personnes à quitter leur foyer.
Et les Ukrainiens étaient dans l'attente des premiers résultats des élections locales qui représentent un test pour le président Petro Porochenko, dont la popularité s'est considérablement effritée après un an et demi de mandat marqué par un sanglant conflit armé dans l'Est et une grave crise économique. L'éventuelle percée des pro-russes a dominé dimanche le scrutin où plus de 200 000 candidats étaient en lice pour des postes de maire et autres lieux municipaux et régionaux. Une telle percée, notamment dans les régions clés de l'Est et du Sud, risquerait de freiner le rapprochement avec l'Union européenne promu par le chef de l'État, voire de raviver, selon certains, des pulsions séparatistes dans ces territoires. Et puis, retour sur le continent avant de nous quitter, les belligérants de la guerre civile au Soudan du Sud ont signé aujourd'hui à Addis Abeba un document les engageant à mettre en œuvre le volet de sécurité de l'accord de paix signé au mois d'août. Le document prévoit, d'après l'AFP, que les discussions sur la démilitarisation de la capitale Djouba reprennent immédiatement. Et puis au Nigeria, l'ex-conseiller à la sécurité nationale sous la présidence de Goodluck Jonathan Sambo-Dasuki a été accusé de blanchiment d'argent par la justice alors qu'il est déjà poursuivi pour possession illégale d'armes à feu. Jean-Roger Billon, dans moins de 20 minutes, le magazine Le Monde Aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci surtout pour votre fidélité. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.